Radio Okapi. Oh, Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, et voici le journal, tout d'abord les titres. La situation dans l'Afrique centrale, les réformes institutionnelles de la CIAC et les relations bilatérales entre la RDC et le Gabon, c'est le sens de l'entretien hier entre le président Joseph Kabila et le président gabonais Ali Bongo qui a séjourné hier ici à Kinshasa. Tous les militaires engagés dans l'opération Oussalama 2 dans le Nord Kivu appellent à la discipline et à protéger les civils. L'appel est du commandant du secteur opérationnel Sokola 1. Les récalcitrants, leur place est dans la prison, a souligné le général Marcel Mbangu. La chaussée du Kasenga qui relie le centre-ville de Lubumbashi à plusieurs quartiers des communes Kapemba Ruachi annexe est dans un état de délabrement très avancé. Les usagers se plaignent à longueur de journée. Que compte faire l'autorité provinciale face à toutes ces doléances? Seul le dossier à suivre dans la seconde partie de cette édition avec Karine Topé. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président gabonais Ali Bongo a séjourné ce jeudi à Kinshasa dans le cadre de la tournée qu'il a effectuée en qualité de numéro 1 de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC. D'après le communiqué rendu public au terme des échanges qu'il a eus avec son homologue congolais Joseph Kabila, les deux chefs d'État ont évoqué la situation dans la sous-région, les réformes institutionnelles de la CEAC et les relations bilatérales entre les deux nations. Sur ce dernier point, les deux chefs d'État ont lancé un vibrant appel à tous les acteurs politiques et de la société civile à se mobiliser en vue de la concrétisation des agendas électoraux dans l'unité, le calme et la paix. Ils ont par ailleurs salué l'excellence de leurs relations et ont réaffirmé leur détermination à renforcer davantage les liens de coopération, d'amitié et de fraternité qui unissent les deux pays et leurs peuples respectifs. L'ancien directeur de cabinet de Moïse Katumbi, le professeur Witmulongo Kalonda, est déclaré libre. Il pourra aller se faire soigner où il voudra. Par contre, Jean-Claude Muyambo, Eugène Diomine Dongala et Jekoko Mulumba demeurent en détention. L'annonce a été faite par le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, ce jeudi à la presse. Il a signé deux arrêtés, l'un concernant la libération conditionnelle de Witmulongo et l'autre amnistiant 33 personnes pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. Le récit de Jeff Ngoy.
J'ai ordonné la libération de 33 personnes. J'ai également signé un deuxième arrêté ordonnant la libération conditionnelle du directeur de cabinet de M. Moïse Katumbi. Le temps que cet arrêté arrive à Lubumbashi, il sera mis en liberté. S'il veut aller se faire soigner à l'étranger ou à Lubumbashi, il pourra le faire.
Jean-Claude Muyambo et Eugène Diomine Dongala ne sont pas libérables ni aujourd'hui ni demain. Alexis Tambwe Mwamba en donne la raison.
Ce sont des droits communs. Si nous libérons l'un, par exemple, il faut pouvoir libérer tous les autres prisonniers qui ont été condamnés pour les mêmes faits. Et ça serait justice.
Quant à la question de savoir si la liste du ministre est conforme à celle du CENSA, le garde des Sceaux n'y va pas par le dos de la cuillère.
Nous recevons des listes de toutes parts et nous les examinons. J'ai mis en place une commission composée de magistrats, des avocats qui examinent tous les dossiers. Et chaque fois que les conditions sont remplies, nous ordonnons la libération.
Par ailleurs, dans le cadre de l'enquête que mène la commission spéciale de vérification des dossiers physiques des magistrats, le ministre de la Justice annonce l'arrestation depuis hier au parquet de Matete d'un contrevenant de la loi qui délivrait de faux diplômes universitaires. Selon Tambwe Mwamba, plusieurs faussaires feront l'objet de poursuites judiciaires et seront révoqués.
Prise de contact ce jeudi entre la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et le bureau de la CENI à Kinshasa. Les deux parties ont fait le tour d'horizon sur l'évolution du processus électoral dans le pays. Pour Leïla Zerugui, des efforts doivent être fournis entre les parties prenantes à ce processus pour parvenir à inscrire dans l'histoire de la RDC une alternance politique pacifique du pouvoir. Entre-temps, la CENI a échangé aussi avec les membres de l'UNC sur ce processus électoral. Le président de l'UNC, Vital Kamerhe, reconnaît des efforts qui sont consentis pour la réussite de ce processus. Cependant, Vital Kamerhe émet des réserves quant à l'utilisation de la machine à voter, malgré la bonne démonstration du bien fondé de celle-ci qui lui a été faite sur place avec ses cadres. Vital Kamerhe est au micro d'Askin Zigbetaoro.
En ce qui concerne le processus électoral, nous avons passé en revue le calendrier électoral et avec la CENI, nous voulons demander, et la CENI l'a confirmé, que la date du 23 décembre 2018 soit considérée comme une date qu'on ne va pas dépasser, qui est réellement élection dans notre pays. Nous avons aussi visité les serveurs et nous avons dit au président de la CENI que cette façon de démystifier certaines questions rassure les parties prenantes au processus électoral. En ce qui concerne la machine à voter, nous avons dit au président de la CENI, nous INC, nous ne sommes pas encore convaincus qu'il faut utiliser cette machine à voter. Elle peut créer beaucoup de problèmes. Et je préfère que nous puissions attendre que les autres partis de l'opposition qui viendront et après puissent eux aussi se soumettre à cet exercice pour que nous donnions notre position commune.
Sachez que le MLC a été aussi reçu ce jeudi par la CENI pour échanger sur ce processus électoral. Puisque nous parlons du processus électoral, sachez que les acteurs de partis politiques ainsi que ceux de la société civile ont participé à une journée d'information et d'échange organisée par NDI grâce à l'appui financier de l'USAID et l'UKAID. Les échanges ont tourné sur la loi électorale, les calendriers et les enjeux des prochaines élections en RDC. La question du seuil électoral introduit dans la nouvelle loi électorale ainsi que de la machine à voter a le plus suscité des préoccupations des participants. Comment la CENI va-t-elle donc appliquer le seuil électoral lors des prochaines élections? L'un des conférenciers, Maître Ronsard Malonda, secrétaire exécutif national de la CENI, répond au micro de Michel Lekifindangoy.
En termes stratégiques, le seuil encourage que le parti politique pour plus de force se regroupe et qu'il puisse postuler ensemble pour espérer, pour ce qui est de la députation nationale, atteindre le seuil de 1% au niveau national, tel qu'exige la loi. Parce qu'après le scrutin, il faudra attribuer les sièges. Mais cette attribution des sièges est d'abord soumise à un préalable. Après le dépouillement, il y aura l'affichage des résultats au bureau de vote, comme on le fait d'habitude, et les procès-verbaux vont être envoyés au centre local de compilation des résultats et les centres locaux de compilation des résultats vont envoyer les résultats agrégés au niveau national où on va faire une autre agrégation à l'échelle nationale. C'est après cette agrégation qu'on saura d'abord le suffrage valablement exprimé à travers l'ensemble de la République et de ce suffrage valablement exprimé, on va tirer les 1% pour déterminer le seuil. Ce sont les partis politiques qui auront atteint la valeur de 1% du seuil au niveau national qui seront éligibles à l'attribution des sièges. Cette attribution des sièges se fera au niveau de chaque circonscription.
Et puis cette information en plus bref, l'Église catholique de toute l'Afrique est mobilisée pour consacrer la journée de ce vendredi à la prière en faveur de la paix en RDC et au Sud-Soudan. Cette mobilisation est une réponse à l'appel lancé le 4 février dernier par le pape François. Ce dernier avait demandé que le deuxième vendredi de carême soit une journée de prière et de jeûne pour la paix dans le monde et en particulier en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, deux pays secoués par la crise sociopolitique. En RDC, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a proposé à titre indicatif pour tous les diocèses de la RDC une séquence de la journée du vendredi 23 février consacrée au jeûne et à la prière pour la paix en RDC en communion spirituelle avec le Saint-Père. D'après un communiqué du 17 février signé par le secrétaire général de la CENCO, le programme de cette journée commence dès 5h du matin avec le recueillement et la méditation. Il est prévu aussi une adoration eucharistique dans la journée. Ce journal se poursuit à 8h08 dans la ville de Goma et là nous sommes dans le Nord Kivu. Le commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord vient d'appeler à la discipline et à protéger les civils. Tous les militaires engagés dans l'opération Salama 2. C'était au cours d'une causerie morale tenue ce jeudi au camp militaire FRDC à Losakaf dans la ville de Beni. Marcel Papimoukeba.
C'est devant les commandants des grandes unités et leurs troupes que le commandant du secteur opérationnel Grand Nord a tenu ce jeudi sa causerie morale. Le général Marcel Mbangu a d'abord félicité ses militaires sous son commandement pour leur engagement dans l'opération Usalama D lancée depuis le 13 janvier dernier contre les présumés ADF dans les territoires de Beni. Il a ensuite tenu à préciser que même si les FRDC ont désormais pris le contrôle de Mwalika et neutralisé Mohamed Kaira, présenté respectivement comme le quartier général, et les commandats des opérations de présumés ADF, la traque contre ce groupe armé est loin d'être terminée. D'où ce rappel à ces hommes à plus de détermination pour mettre fin définitivement à cette guerre. Le commandant du secteur opérationnel Grand Nord a en outre appelé tous les militaires à la discipline et à protéger les civils pendant les opérations militaires. Le général Marcel Mbangu a en fait mis en garde tous les officiers FARDC sous son commandement qui utilisent leur téléphone portable dans les zones de combat pour prendre des photos de leurs compagnons tombés sur les champs d'honneur pour les partager sur les réseaux sociaux. D'après lui, il s'agit d'une pratique qui n'a pas de place au sein des FARDC. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
On reste dans le Nord Kivu. 11 organisations de la société civile environnementale exigent le retrait des armées congolaises et rwandaises du secteur Mikeno dans le parc national de Virunga. C'est là l'objet de la lettre que ces organisations ont adressée hier mercredi dernier, au secrétaire exécutif de la CRRGL. C'est en réaction aux affrontements le 13 février dernier entre les FARDC et les RDF rwandaises entre Mikeno et Sabinho dans ces secteurs. Pour le porte-parole de la synergie des écologistes pour la paix et le développement, plateforme de ces organisations, la présence de ces deux armées menace ce seul sanctuaire des gorilles de montagne au monde. Michael Batakunda est au micro de Bernard Nyangi.
Nous exprimons en fait une inquiétude concernant la mise en péril des secteurs de gorilles de montagne. Nous avons rappelé à son excellence, monsieur le secrétaire exécutif de la CIRGL, par rapport à l'importance qu'est rêvé en fait ce sanctuaire de gorilles. Il est le dernier au monde, mais aussi par rapport à sa fragilité et concernant tout ce qui peut y avoir comme opération militaire ou affrontement entre les deux armées. Et l'escalade pourrait entraîner en fait une conséquence très drastique sur les populations de gorilles qui habitent ces secteurs-là. Nous estimons que étant le numéro 1 de la CIRGL et conformément aussi à ses prérogatives au travers du mécanisme conjoint de vérification des frontières, qu'il est à mesure d'interpeller ou bien de rappeler aux deux chefs d'État, c'est-à-dire le président rwandais et le président congolais, de pouvoir revoir en fait leur stratégie par rapport à la gestion des frontières. Les deux chefs d'État qui puissent cesser avec toute opération militaire ou bien tout déploiement dans ces secteurs afin de pouvoir sauver ces sanctuaires de gorilles du secteur Mikeno.
Le vice-ministre de l'Agriculture, Noël Botakile, est accusé de trafic d'influence. C'est dans un conflit parcellaire qui oppose deux membres d'une même famille, un grand frère et sa petite sœur. La dite parcelle est au numéro 1415 de l'avenue Paca à Lemba Super. Le vice-ministre a pris parti du grand frère dont la fille est son épouse et s'est interposé en empêchant par deux fois l'exécution d'une décision judiciaire de déguerpissement. Écoutez Maître Félix Yanana, avocat de Madame Pauline Mpoikela, bénéficiaire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete, au micro d'Innocent Olinga.
Le tribunal de grande instance qui a rendu la décision en faveur de ma cliente, bien entendu, a fixé que celle-ci puisse être exécutée le 14 février. Et après que l'exécution ait eu lieu, plus ou moins une heure après, on nous a appris que le vice-ministre Botakile était descendu sur le lieu, accompagné d'un général, pour donner des ordres afin que les déguerpis rentrent dans la parcelle. Aujourd'hui encore, le même ministre, parce que le tribunal a requis la force publique et est descendu pour refaire le travail en date du 22, en toute régularité, le même vice-ministre est descendu sur les lieux avec un magistrat de l'auditorat supérieur de Matete pour neutraliser tous les policiers commis par le commissariat provincial de la police, réinstaller les déguerpis en marge de toute décision de justice, s'est tenu là-bas jusque vers 12 heures qu'il quittait après avoir évacué tout le monde. Nous nous posons la question, sommes-nous dans le pays où les ordres du chef de l'État doivent être foulés aux pieds car les décisions de justice sont rendues au nom du peuple congolais et prononcées au nom du chef de l'État.
Interrogé par Radio Capi, le vice-ministre dit être intervenu pour empêcher une bavure judiciaire du fait que cette affaire est devant la cour d'appel, ce qui implique la suspension de la décision du premier juge. Noël Botakile déclare qu'il serait intervenu même pour une tierce personne en tant que professeur en droit et avocat de profession pour assister quelqu'un à qui on abuserait de ses droits. Il est joint au téléphone par Innocent Linga.
J'ai épousé une des filles de monsieur contre qui le jugement par défaut assorti de clauses exécutoires devrait s'exécuter. Mais cependant, ce que l'avocat ne dit pas, c'est qu'en même temps, ce jugement par défaut a été déféré en appel et la cour d'appel a pris l'affaire en délibéré. Et en droit, lorsque un jugement fait l'objet d'une procédure d'appel en défense à exécuter, l'exécution est suspendue. Ce que nous ne voulons pas, parce que nous sommes ayant cause de la famille, c'est qu'une personne cache un exploit en bonne et due forme qui suspend la première procédure dont Madame Kouiké la revendique et que, au même temps, que les autres parties qui attendent les délibérés du juge quant à cette procédure soient sacrifiées et ne soient pas protégées par la loi. Mon intervention n'a du sens que pour autant que le droit est respecté, celui qui sera propriétaire du point de vue judiciaire prendra place possession de cette maison. Même si c'était initié à ces personnes, je serais intervenu en tant que professeur de droit, avocat de profession, pour assister quelqu'un à qui on abuserait de ses droits.
Actualité Afrique Monde.
En dehors de nos frontières, les élections législatives à Djibouti se tiennent ce vendredi 23 février. Environ 200 000 électeurs répartis dans 468 bureaux de vote doivent élire 65 députés à l'Assemblée nationale. Inscrits en suspense limitée, le parti majoritaire UMP domine largement au Parlement et par favori face à lui une opposition qui tente de se relever après plusieurs années de division.